Les chaînes musculaires, physiologiques ou dysfonctionnelles? Si la notion de chaîne musculaire est bien assimilée par le monde de la kinésithérapie aujourd'hui, entre autres grâce à l'apport de disciplines globales comme l'ostéopathie, la fasciathérapie ou encore la posturologie, son application pratique, son investigation clinique et son traitement manuel spécifique restent encore approximatifs pour beaucoup de praticiens. Effectivement, les chaînes musculaires sont avant tout un mécanisme physiologique et fonctionnel qui permet de coordonner de manière intégrée plusieurs maillons articulaires autour d'une tâche précise. Cette tâche peut être simplement la lutte antigravifique, tenir debout, la marche ou le lancer, ou encore des tâches plus fines comme l'écriture. Dans d'autres cas, elles seront exploitées de manière intelligente par notre système neuromoteur pour permettre de maintenir la fonction alors qu'un ou plusieurs maillons ont perdu une partie de leur mobilité ou de leur capacité motrice. Dans cette stratégie de suppléance ou de dérivation, la perte d'économie pourra se traduire alors par l'apparition de gènes, de symptômes, de maladresse, voire de douleurs justifiant la plainte de nos patients. Et parfois même, ce mécanisme occasionnera l'apparition de symptômes, voire de pathologies, dans des zones non dysfonctionnelles, simplement situées en bout de chaîne de compensation, comme c'est souvent le cas, par exemple, pour les cervicalgies dites symptomatiques. Alors certes, les chaînes musculaires ne sont que rarement la cause du problème, mais elles en sont toujours le vecteur. Prenons l'exemple du syndrome postural. Il concerne principalement les chaînes musculaires dites antigravifiques, et si la symptomatologie est dominée par des troubles musculosquelettiques récurrents, ces derniers n'en sont que rarement la cause. Effectivement, une des rares constantes du corps humain reste le regard à l'horizontale, car les muscles oculomoteurs sont les muscles du corps les plus pauvres en unité motrice et sont de fait extrêmement fatigables. Ils doivent donc être placés bien au centre des orbites pour permettre la poursuite oculaire et la vision binoculaire, mais également assurer le contrôle de l'équilibre et de la posture par leur synergie avec le système vestibulaire. En conséquence de quoi, quelle que soit la nature des dysfonctions en dessous, elles devront être compensées plus haut ou plus bas pour maintenir cette constante et cette horizontalité du regard. C'est par ce mécanisme qu'un problème d'appui, une hernie discale, une prothèse de hanche avec différence de longueur des membres inférieurs ou encore une colopathie fonctionnelle se verront fréquemment accompagnés d'une multitude d'adaptations faites pour parvenir à un équilibre global au niveau sous-occipital via les chaînes musculaires antigravifiques. Le thérapeute qui agira mécaniquement en débloquant chacune de ces adaptations sans en comprendre la cause n'améliorera pas son patient et parfois l'aggravera en ajoutant à son problème initial une désorganisation musculo-squelettique souvent fortement inconfortable pendant plusieurs jours après la séance. Ce que le patient mécontent ne se gênera pas de signifier au praticien, pourtant bien intentionné. Ce mécanisme physiologique possède donc la capacité d'exporter un problème local pour le diluer dans la chaîne. Mais que se passe-t-il quand il se heurte à d'autres mécanismes de compensation? Ou à la fatigue, par exemple? Vous l'expérimentez quotidiennement dans vos cabinets, sans forcément en comprendre le mécanisme. Le patient consulte en vous disant cette phrase toujours déconcertante: « Je sais pas ce que j'ai fait pour avoir mal. » Ou encore « Je me suis levé bloqué ce matin. Ça doit venir d'une mauvaise position pour dormir ou de mon lit. » À chaque fois qu'un symptôme apparaît en médecine, sans motif apparent, on recherche ce que l'on appelle en sémiologie les signes d'accompagnement, qui vont permettre de nous donner une direction dans notre investigation. Voilà l'intérêt principal de connaître les chaînes musculaires. Pouvoir s'orienter pour remonter jusqu'à là où les sources qui ont abouti à ce phénomène de décompensation. Cette démarche n'est pas innée pour nous, kinésithérapeutes, formés à rééduquer par zonage, et demande une vision globale et une compréhension suffisante pour pouvoir justifier au patient que sa douleur au dos vient en partie d'ailleurs. Pour cela, pas de secret, il faut se former. Les ostéopathes mettent environ 5 à 6 ans à acquérir ce réflexe qui fonde leur discipline dite holistique. Mais il n'y a jamais deux schémas identiques. Il faut donc être capable d'effectuer une investigation manuelle précise des contractures pour s'adapter à chacun de nos patients. Autre exemple, le syndrome fémoropatellaire des adolescentes. Autre motif de consultation fréquent et tout aussi déconcertant sont les fameux syndromes fémoropatellaires, particulièrement de la jeune femme, qui dans certains cas s'installent sans qu'aucune cause mécanique ou traumatique ne soit retrouvée lors de l'anamnèse. Les poussées de croissance seront alors mises en avant, ou encore un mauvais axe biomécanique entre la rotule et la gorge de la trochlée devenue subitement symptomatique. On se retrouvera dès lors à devoir agir localement sur une articulation déjà victime de problèmes sous-jacents auxquels viendront se greffer les contraintes d'une rééducation active. Les chaînes musculaires en jeu dans ce cas de figure adaptent les contraintes gynécologiques dont le lien semble tellement lointain pour certains qu'ils ne pensent pas à poser la question des algoménorrhées, les règles douloureuses. Beaucoup de jeunes filles souffrent de règles douloureuses et ce sujet tabou n'est pas évoqué par pudeur ou simple oubli. Et pourtant, les spasmes utérins et l'inflammation, parfois quasi permanentes, vont influer de manière insidieuse et silencieuse sur le bassin et la mise en place d'une attitude antalgique, engageant les muscles adducteurs et sartorius, entre autres, en modifiant irrémédiablement les fameux axes et les appuis des membres inférieurs. L'investigation des chaînes. Les chaînes musculaires sont comme les voies ferrées. Si le train n'est pas à quai, nul besoin d'aller chercher n'importe où, il nous suffit de remonter la voie à l'envers pour déterminer où se situe l'obstacle. C'est pareil pour les chaînes musculaires. Lorsqu'un patient consulte en nous expliquant qu'il a mal à un endroit et que rien ne justifie localement ce symptôme, on peut être sûr qu'on trouvera le responsable en remontant la chaîne. Et parfois, il faut aller loin, voire à l'autre bout. C'est un fait bien connu des pratiquants de trail ou de marathon, ou encore par les posturologues. La telalgie plantaire, par exemple, n'est pas forcément le fait d'un mauvais chaussage. Il faut parfois remonter jusqu'à la mâchoire et l'occlusion pour comprendre pourquoi un appui a suffisamment changé pour occasionner l'apparition de ce type de symptômes. L'investigation se fera dans la majorité des cas par la palpation précise des muscles constituant cette chaîne. Ce qui signifie qu'il faut être suffisamment précis dans sa palpation et son repérage pour individualiser chacun d'entre eux. Mais pour certains muscles profondément situés, on devra utiliser plutôt des tests d'extensibilité pour détecter le maillon faible. C'est ainsi que nous allons être en mesure d'interroger le corps et de retrouver parfois, au grand étonnement de nos patients, d'anciens traumatismes oubliés lors de l'anamnèse. Nous parviendrons alors à remonter le temps pour essayer de reconstituer le puzzle qui mène notre patient à consulter. Un dernier exemple, tendinite de la souris. Un autre mécanisme de compensation opère dans une symptomatologie bien connue dans nos cabinets, la fameuse épicondylite, non traumatique, bien entendu. Il s'agit fréquemment plus de myosite d'ailleurs, avec des points triggers qui vont générer la symptomatologie, consécutifs à une hypertonie compensatrice de dysfonction de mobilité au niveau du poignet et ou de la main, qui vont alors se manifester par un simple usage d'une souris d'ordinateur, par exemple. Mais si les chaînes musculaires ne sont pas systématiquement à l'origine des troubles musculo-squelettiques, comme on l'a dit précédemment, les négliger sera systématiquement source de récidive ou d'amélioration incomplète. Car les contractures installées parfois depuis de nombreux mois, voire années, ne céderont pas sans un traitement ciblé et raisonné du praticien. Les levées de tension musculaire, un outil redoutablement efficace pour traiter les chaînes musculaires dysfonctionnelles. Les levées de tension musculaire, ou techniques myotensives, s'appuient sur deux principes neurophysiologiques découverts et exploités depuis le XXe siècle par Charles Sherrington et Herman Cabat. Ce sont entre autres les notions de période réfractaire, encore appelée relaxation post-isométrique, et d'innervation réciproque. Dans ces deux cas, on va de toute façon exploiter sur une courte période l'inhibition du réflexe myotatique, empêchant habituellement le relâchement de la fameuse contracture musculaire. En étirant le muscle après l'avoir contracté, ou son antagoniste, et en respectant un axe bien précis, et ce sans dépasser la notion de barrière motrice. La technicité repose sur l'orientation de l'étirement, précise pour s'adresser uniquement à la portion du muscle contracturé et le bon timing, pour ne pas chercher à gagner trop tôt, trop fort ou trop loin. C'est la raison pour laquelle une technique de levée de tension n'est pas un simple étirement et nécessite une formation complète pour être exploitée efficacement. Une fois maîtrisée, ces techniques s'avèrent être de formidables alliés dans la prise en charge de nos patients chroniques et un moyen inégalable lorsque le patient vient à temps pour éviter des lésions parfois irréversibles sur un des maillons de cette chaîne. C'est souvent le cas, par exemple, dans les périarthrites scapulo-humérales qui sont souvent diagnostiquées trop tard pour pouvoir résoudre le problème sans avoir à en traiter la conséquence.